Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place. » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Il y a peu de temps, nous avons célébré la fête où nous commémorions comment la plus humble de toutes les créatures a été la plus glorifiée de toutes. Je parle évidemment de Notre-Dame en la fête de l'Assomption, la plus humble de toutes les créatures, élevée dans la gloire du ciel au-dessus des anges. C'est la Vierge Marie. Et le Christ lui-même s'est abaissé, plus bas que terre, plus bas que la condition humaine classique. Il s'est fait l'esclave des hommes, lui l'innocent, et Dieu l'a exalté. Il a fait de lui le Seigneur dans toute sa puissance. La deuxième lecture, ainsi que le psaume, dans la lettre aux Hébreux, nous ont fait considérer le ciel et comment les justes sont dans une joie sans mélange devant le trône de Dieu. Les justes sont en fait, ils exultent devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'on est heureux au ciel? C'est que Dieu est tout en tous et que finalement chacun est vide de lui-même, parce que dans l'évidence de la gloire de Dieu, de sa majesté, de sa lumière, de sa bonté, on n'a plus envie de s'enorgueillir, d'être plein de soi-même, mais on est rempli de l'amour de Dieu. Les lectures de ce jour nous font considérer comment le Seigneur nous appelle à l'humilité. L'humilité. En évitant de nous surestimer pour prendre des places qui ne nous seraient pas dues. Et finalement, en devenant conformes à Jésus. Donc j'aimerais méditer avec vous sur l'humilité qui est la vérité. L'humilité, c'est la vérité. Et si on parle d'humilité, il faut parler de son ennemi, que nous connaissons mieux souvent que l'humilité, c'est l'orgueil. Et ce sera mon premier point, l'orgueil, notre maladie. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de vous parler du remède pour grandir dans l'humilité et combattre l'orgueil. Alors notre maladie commune, c'est l'orgueil. L'orgueil qui veut aussi dire la fierté et qui se définit comme un amour désordonné de soi, si bien que l'on en arrive à déformer la réalité, à se prendre pour le centre du monde. Quel aveuglement! On se prend tous pour le centre du monde, alors qu'en fait c'est Dieu le centre du monde. Et qu'on a juste, eh bien, une porte d'entrée dans cette réalité qui nous précède et qui nous suivra, mais fondamentalement nous ne sommes pas le centre du monde. On se prend pour la source de ce que nous sommes, la source de nos vertus. On se prend pour une référence, tandis que les autres n'ont rien compris et n'ont que des défauts. Et ainsi, on se permet de critiquer pour mieux s'aveugler sur nos propres limites. On se prend finalement pour un petit Dieu, digne d'adoration, et on est plein de soi-même, tellement plein de soi-même qu'il n'y a pas de place pour l'autre, qu'il n'y a pas de place pour Dieu, qu'il n'y a pas de place pour la vérité. Alors, l'orgueil est un mensonge, tant au niveau de la nature. N'oublions pas que si nous ne mangeons pas pendant 12 heures, nous sommes faibles et tremblants. Alors rendons grâce au Seigneur quand il nous donne un bon repas. N'oublions pas que si nous n'avions pas des parents, nous ne serions pas là. Et au plan surnaturel, n'oublions pas que si le Seigneur ne nous avait pas pardonné, nous serions morts et de nous-mêmes nous serions condamnés à l'enfer. Mais Dieu, dans sa grande bonté, nous a sauvés et c'est pour cela que nous sommes vivants. Combien de fois sommes-nous orgueilleux les uns devant les autres ou devant Dieu lui-même, alors qu'il nous a tant de fois rendu sa vie, que nous perdons si facilement. Il ne s'agit pas de se déprécier, mais simplement de voir la vérité. La vérité, c'est que nous sommes dépendants de Dieu, dépendants de la création, dépendants des autres, et pourtant nous voudrions nous suffire à nous-mêmes. Le péché d'orgueil est un péché capital dans les 7 péchés capitaux, et parmi les péchés capitaux, c'est le capital des capitaux, si l'on peut parler ainsi, c'est la grande tête de tous les péchés capitaux, parce qu'il est celui qui entraîne tous les autres. Il est un peu comme cette fumée de Satan, car si les 6 autres péchés capitaux s'identifient facilement par des actes concrets qu'on pose, l'orgueil, lui, est comme une espèce de fumée qui rentre par n'importe où, par les trous du plancher et non pas par les fenêtres. Bref, on ne sait pas par où il arrive, mais il est là. Et donc, c'est pour ça que c'est un terrible adversaire. L'orgueil, comme péché capital, blesse notre relation à nous-mêmes, qui fait que nous sommes autosatisfaits, nous sommes aussi imprudents, car nous pensons que nous sommes tout-puissants, et en fait, ben non, nous sommes faibles, limités, et nos entreprises nous amènent parfois à notre propre ruine. L'orgueil blesse notre relation à autrui, que volontiers nous allons mépriser, critiquer et envers qui nous serons ingrats. Dire merci comme c'est difficile. On a du mal à dire merci pour reconnaître qu'on dépend des autres. Et dans la relation à Dieu, l'orgueil rend incapable de le connaître. L'orgueil combat directement Dieu, disait un père du désert. L'orgueil nous rend incapables de voir notre péché et nous endort tranquillement dans l'illusion que nous n'avons pas de péché, jusqu'à nous acheminer progressivement vers l'impénitence finale, c'est-à-dire le fait de repousser indéfiniment notre conversion et de mourir sans se convertir. Et cela, le Seigneur ne peut pas le forcer. Il veut nous donner la lumière de sa miséricorde pour nous montrer notre vérité devant lui et pour finalement nous sauver. Dieu n'est pas là pour nous éblouir par une froide lumière qui nous met finalement dans une lumière qui nous accuserait. Si Dieu nous met dans notre vérité, c'est pour mieux nous sauver. Car le Seigneur, dans sa grande bonté, ne veut pas seulement nous montrer notre misère, mais il veut nous donner sa miséricorde. Quand nous avons conscience de notre misère, eh bien, la miséricorde divine est comme attirée, elle court vers nous, comme le Père miséricordieux qui court vers le Fils prodigue. Donc oui, l'orgueil est notre maladie, maladie qui nous rend finalement incapables de relation, parce que la relation suppose une certaine pauvreté, pauvre de cœur, une pauvreté qui fait qu'on a besoin de l'autre, qu'on reconnaît qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de Dieu comme notre sauveur, car sans lui nous ne pouvons pas aimer, nous ne pouvons pas faire le bien par nous-mêmes. Alors bien sûr, tout ça n'est pas très drôle, puisqu'il s'agit de montrer le péché, et tous, eh bien, nous sommes condamnés par ce constat que l'orgueil nous est familier. C'est pour ça qu'on va parler maintenant de celle qui nous est plus inconnue, l'humilité et qui est le remède à notre orgueil. Grandir dans l'humilité, ou plutôt devenir petit et donc devenir humble. Sainte Mariam de Jésus crucifié disait « L'humilité a le goût de Dieu, elle fait goûter Dieu. Les humbles sont dans la joie, ils dansent de joie devant le trône de Dieu parce qu'ils connaissent ce qu'ils doivent au Seigneur. Ils connaissent la grandeur de Dieu et leur misère, mais leur misère qui est aimée. Nous sommes peu de choses, mais le bon Dieu nous aime. Comme disait le bon curé d'Ars, on n'est que ce qu'on est devant le bon Dieu. On n'est que ce qu'on est devant le bon Dieu, rien d'autre. Pas de comédie humaine devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Et il nous aime. Voilà. Alors comment grandir dans l'humilité? D'une manière générale, pour grandir dans une vertu, il faut combattre le vice opposé. Et donc, travailler la vertu opposée, c'est l'humilité. Mais comment faire? Alors un moyen concret, c'est l'examen de conscience, c'est-à-dire déjà repérer les moments où cette espèce d'ombre fumeuse, eh bien, s'est dissimulée en nous, dans notre journée, car souvent, on ne s'en rend pas compte. L'examen de conscience quotidien. Saint Ignace recommandait « Si vous ne pouvez pas faire oraison, faites au moins l'examen de conscience. » C'est dire l'importance. « Merci Seigneur, pardon Seigneur, s'il te plaît Seigneur. » C'est vraiment important, et c'est vrai avec Dieu, et c'est vrai avec le prochain. Dans un couple, se dire merci, se dire pardon, se dire s'il te plaît, eh ben, c'est pas si facile. Et pourtant, eh bien, c'est la marque qu'il y a de la place en nous pour la relation. Un autre point, c'est l'action de grâce. L'expression « rendre grâce » n'est pas toujours très claire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Rendre grâce, c'est-à-dire on rend quelque chose qu'on a emprunté, quelque chose qu'on a reçu. Rendre grâce, c'est le nom de l'Eucharistie. Et quand on rend grâce, on dit « Seigneur, tu m'as donné ça, je te le rends. Seigneur, tu m'as donné mon talent, je te le rends. Tu m'as donné de dire une bonne parole, eh bien c'est super, je te le rends, car c'est à toi que ça appartient. Tu m'as donné ma santé, tu m'as donné ma beauté, tu m'as donné ma force. Cela vient de toi, je te le rends. Rendre grâce, c'est dire, je ne suis pas la source de ma perfection, je ne suis pas ma propre source, mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. C'est ce que disait saint Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu en vérité? Voilà. Alors, travailler l'humilité par l'examen de conscience, l'action de grâce, et j'ajouterais l'adoration eucharistique. Bien souvent, nous recourons à Dieu comme à un compte Amazon. Je veux ça, il faut que j'aie ça tout de suite, maintenant. La culture dans laquelle nous vivons façonne notre image de Dieu, et on croit que Dieu, c'est comme une sonnette d'alarme ou un conducteur de Uber Eats ou que sais-je, qui va nous amener ce qu'on veut, quand on veut, à notre mesure. Mais c'est l'inverse. On veut que Dieu nous exauce, mais personne ne veut exaucer Dieu, que ta volonté soit faite. Et donc l'esprit d'adoration nous enseigne à nous prosterner devant Dieu avant même de lui demander quoi que ce soit. Notre prière est souvent longue en demande, mais pas forcément longue dans l'adoration. Or le Seigneur sait par avance ce dont nous avons besoin. Alors adorons-le, adorons sa grandeur, il mérite d'être adoré. Il n'est pas seulement un consolateur ou quelqu'un qui écoute nos problèmes, même si c'est aussi cela, mais il mérite d'être adoré, car nous lui devons tout. L'adoration, oui, mais l'adoration eucharistique. Pour guérir notre orgueil, quel meilleur remède que de contempler celui qui se fait tout petit, le Créateur du ciel et de la terre, qui s'est fait homme et qui est venu jusqu'à nous, qui est mort sur une croix, qui a versé tout son sang par amour pour chacun de nous, et qui est ressuscité et se donne à nous en nourriture. Le Fils de Dieu n'est pas inférieur au Père. Jésus n'est pas inférieur à son Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, disons-nous, dans le credo. C'est-à-dire que le Père n'est pas plus grand que le Fils. Donc celui que nous recevons à la messe, C'est le Seigneur, c'est notre Dieu, notre Créateur, rien de moins. C'est pour ça que nous nous prosternons à l'adoration eucharistique, sinon ce serait de l'idolâtrie. Celui que nous recevons est Dieu. Alors si Dieu se fait si petit, pourquoi persistons-nous à nous battre pour de la fumée, pour de la vanité? Regardez l'humilité de Dieu, humble sublimité, sublime humilité, disait saint François. Pour grandir donc dans cette vérité de l'humilité, eh bien, prosternons-nous devant le Seigneur et reconnaissons tout ce que nous lui devons, la vie, le mouvement et l'être. Saint Angèle de Foligno disait « Connaître le tout de Dieu et le rien de l'homme, voilà la perfection. » Non pas que nous ne soyons rien du tout, mais Dieu étant Dieu et sa miséricorde étant si grande, eh bien, nous sommes comme une petite poussière devant lui, une poussière aimée, infiniment digne, mais nous sommes peu de choses. Alors demandons la grâce en cette Eucharistie, eh bien, de commencer cette année en reconnaissant que Dieu est le Seigneur et que c'est à nous de nous mettre à son service et non pas l'inverse. Je finirai donc en contemplant avec vous comment l'humilité, c'est la vérité. Car on pourrait croire que l'humilité, c'est toujours se déprécier soi-même. Non, c'est reconnaître ce que l'on est en vérité devant Dieu, devant les hommes, avec nos talents, avec nos faiblesses. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Et donc méfions-nous de la fausse humilité qui cache en fait le désir d'être admiré que les autres nous disent « Mais oui, tu es super !» Alors je finis donc avec cette citation de sainte Thérèse d'Avila. Je me demandais un jour pourquoi notre Seigneur était si ami de la vertu d'humilité. Et à un moment où je n'y pensais plus, ce me semble, il me vint tout à coup la pensée suivante. C'est parce que Dieu est la suprême vérité et que l'humilité consiste à marcher selon la vérité. Oui, l'humilité, c'est la vérité. Amen.